Témoignage écossais.
Le rendez-vous des idées.
Toutes les idées.
Rien que les idées.
Une émission proposée par le Suprême Conseil pour la France.
Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Témoignages écossais consacré, une fois n'est pas coutume, non pas à une personne, mais à une œuvre majeure du répertoire musical classique. Si je vous dis qu'il s'agit d'un opéra, que sa première représentation date du 30 septembre 1791 et que cette œuvre est le dernier opéra créé par son compositeur, vous aurez tous deviné de quoi et de qui nous allons parler aujourd'hui. Surtout d'ailleurs si votre oreille n'a pas été indifférente à notre générique. Intitulé « Die Zauberflöte », bon, j'ai pas fait allemand première langue, je suis désolé, cet opéra, composé par Mozart, est plus connu des non-germanisants sous le titre de « La flûte enchantée ». Pour en parler, nous avons invité une éminente musicologue, sœur du droit humain, qui nous a déjà fait l'honneur de sa présence au mois de juin 2022, il y a tout juste un an, Nicole Desgranges, bonjour.
Bonjour.
Et je salue mon compagnon de micro, Claude Guichard, qui, s'il n'est pas musicologue, n'en est pas moins mélomane. Et Claude, tu nous pardonneras volontiers de faire des infidélités à Wagner que tu apprécies si particulièrement.
Bonjour Stéphane. Bonjour Nicole. Alors je dois dire que Wagner et moi, nous vous pardonnons bien volontiers.
Merci.
Vous savez, je vais vous faire une révélation. Wagner est beaucoup plus tolérant que ce qu'on imagine. Et si j'apprécie, c'est vrai, beaucoup l'œuvre de Wagner, notamment Parsifal, j'apprécie également la flûte. Et je pense, peut-être aurons-nous l'occasion d'en parler, qu'il y a quelques questionnements en commun entre ces deux parties musicales.
Merci Claude. Alors Nicole, autant le dire tout de suite, tu es la spécialiste contemporaine de la flûte enchantée. Il y en a eu d'autres avant.
Et une des spécialistes.
Oui, c'est ta modestie qui parle.
Écoute, voilà.
Tu es même en train d'y consacrer l'écriture d'un ouvrage. Et si tu es parmi nous aujourd'hui, c'est pour à la fois nous expliquer les composantes maçonniques indéniables de cette œuvre, mais aussi pour nous révéler d'autres éléments moins connus et qui, je dois le dire, nous ont particulièrement étonnés pendant la préparation de cette émission.
Oui, il me semblait intéressant de vous présenter la flûte enchantée parce que c'est vrai que depuis l'ouvrage de mon professeur Jacques Chaillet, professeur au conservatoire d'histoire au conservatoire de Paris, c'est vrai que beaucoup d'écrits se sont consacrés, je pourrais dire, à la flûte enchantée. Et c'est vrai que malheureusement, les écrivains ont souvent repris ce qu'avait dit Jacques Chaillet, qui n'était pas maçon, mais qui avait fait l'effort déjà de faire toute une étude absolument extraordinaire de la flûte. C'est le premier à avoir dit que c'était un opéra qui était relaté, d'après lui, l'initiation maçonnique. Mais malheureusement, il y a un certain nombre d'incohérences et qui ont toujours été reprises. Ce qui fait que depuis 15 ans, j'ai voulu m'atteler à cet ouvrage, déjà parce que je suis claciniste, donc c'est un instrument vraiment du XVIIIe siècle et je sais ce que c'est que de la musique du XVIIIe siècle, j'en suis spécialiste. Je suis franc-maçonne, mais je crois qu'en fait cet opéra, tout le problème c'est de ne pas l'aborder avec notre conception du rituel, quel que soit le rituel que nous pratiquons, du XXIe siècle, puisqu'au XVIIIe c'était pas du tout ça. Et la troisième chose, il se trouve que je suis historienne, donc c'est vrai que tout mon travail a consisté d'une certaine manière à remettre la flûte dans son contexte original et en particulier avec des documents d'époque que j'ai pu retrouver. Je crois que c'est ça le fondement de, je dirais en toute humilité, du travail que je poursuis depuis 15 ans. Parce que je me suis dit un jour, m'atteler à la flûte enchantée, pour nous maçons, c'est tellement notre Graal, quoi, d'une certaine manière. C'était osé de ma part. Et je veux absolument que, d'une certaine manière, tout ce que je peux dire ne s'appuie que sur des sources qui sont absolument réelles et confirmées et non pas des dires. Et c'est tout l'enjeu de ce travail.
Et c'est tout l'enjeu de ce programme aujourd'hui, effectivement, de remettre aussi dans son contexte cette œuvre, parce que c'est un secret pour personne de dire que Mozart était franc-maçon, qu'il a été initié en 1784 dans la loge La Bienfaisance à Vienne, en Autriche. Mais j'aimerais qu'avant, effectivement, Nicole, qu'on entre dans le détail de La Flûte Enchantée, on s'intéresse d'abord à ce contexte qui a vu l'éclosion de cette œuvre. Que pouvons-nous dire, que peux-tu nous dire de la franc-maçonnerie de cette époque à la fin du XVIIIe siècle à Vienne?
Alors déjà, il y a eu l'ouverture d'une première loge à Vienne qui s'appelait Aux Trois Chanoines en 1742, mais elle s'est vite arrêtée. Plus rien. En 1770, on a une loge qui s'appelle la loge Zur Hoffnung, qui veut dire l'espoir ou l'espérance, qui est créée et c'est vraiment la première loge qui va perdurer. 1775, une nouvelle loge qui va s'appeler Zur Gekrönten Hoffnung, l'espérance couronnée, va être créée. Et puis très rapidement, un certain nombre de loges, jusqu'au chiffre de 8, vont se créer, donc à Vienne. Ce qui est intéressant, c'est que par exemple, une loge qui s'appelle Souverän Eintracht, la vraie Concorde, qui elle est fondée en 1781, va avoir comme vénérable maître un certain Born, dont je vais reparler. Un autre qui va être donc la fameuse loge dont tu as parlé, la Bienfaisance, elle est créée en 1783. Et Mozart, il va y être effectivement
Mozart est un des
initié.
Premiers, est un des premiers initiés
en 1784, cette loge. Presque un des premiers. Et le vénérable maître à l'époque est Tobias Philipp von Gebler, dont je reparlerai tout à l'heure. Et je pense en fait que si Mozart, à un moment donné, frappe à la loge, c'est pas tellement pour les valeurs qu'elle défendent. C'est d'abord parce qu'il connaît un certain nombre de frères. On va le voir avec Gebler, on va le voir avec Born, qui ont été probablement ses parrains. Mais aussi, il se souvient que les musiciens étaient vraiment considérés, qu'on allait les chercher pour qu'ils soient là, pour faire donc les rituels en musique. Et il a besoin d'argent. Donc, je pense que ses motivations premières ne sont peut-être pas celles que nous, on pourrait penser maintenant.
Pas si ésotériques que ça.
Non, pas au départ. Mais assez rapidement, grâce à tout cet environnement qu'il va rencontrer et puis la qualité des frères qui vont être là, c'est vrai que tout cela va le concentrer vers justement ces notions ésotériques.
Oui, Nicole, parce qu'effectivement, bon, il est rentré en maçonnerie parce qu'il connaissait des frères. C'est pas une grande originalité, hein. Je crois qu'on est assez nombreux dans ce cas-là. Par contre, j'ai cru comprendre quand même qu'il s'était passionné pour la maçonnerie, qu'il s'est véritablement engagé. Est-ce que ça a donné des résultats lisible, en dehors de l'œuvre dont tu vas parler plus en détail après? Est-ce que, par exemple, entre les noces de Figaro d'un côté, le Requiem de l'autre, est-ce que dans tout cet espace-là, tu as pu, découvrir une modification, des changements?
Absolument. C'est-à-dire que, en même temps, déjà, on va le constater tout à l'heure, bien plus jeune, grâce à Gebler, par exemple, il avait déjà écrit des œuvres, même qui est en rapport avec la maçonnerie, tout en n'étant pas maçon. Ça, je reviendrai après. Mais entre 1784 et 1791, en fin de compte, sur 7 ans, il meurt en 1791, il va composer effectivement les Noces de Figaro, sur un livret donc de Daponte, à partir du mariage de Figaro, où, d'une certaine manière, là, on est entre une considération par rapport au contexte des différences sociales, entre les nobles, les serviteurs, tout ça, enfin, voilà. C'est quelque chose qui me semble déjà intéressant comme choix. Ensuite, il va faire un opéra. Alors, dire aussi que la maçonnerie, donc, comme je l'ai dit, la Grande Loge donc d'Autriche est née en 1784, mais en 1785, Joseph II va établir une patente. Parce que il veut un peu tout maîtriser, il n'est pas maçon, Joseph II, il veut tout maîtriser, mais cette patente va avoir pour objectif de limiter le nombre des loges pour les contrôler. Alors, il veut d'abord les limiter à 3, et il fallait qu'il y ait 180 frères dans chaque loge. Et ça va être à 3. Puis il se trouve qu'il y a une loge, très rapidement elle va fermer, ce qui fait que très rapidement il n'y en aura plus que 2. C'est-à-dire que de 8, en 1785, soit un an après l'initiation de Mozart, nous passons à simplement que 2 loges, dont l'espérance nouvellement couronnée, où Mozart va continuer jusqu'en 1791. Alors, il y a beaucoup de bouleversements dans la maçonnerie à cette époque-là. J'y reviendrai parce que quelque part, il y avait aussi l'introduction des Illuminati de Bavière, qui va être là. Born était un éminent représentant de l'Illuminati.
Bref, dont le mouvement est stoppé, d'ailleurs, à peu près à cette époque-là.
1785, grâce en fait au grand électeur de Bavière, Karl Théodore, qui va interdire les réunions des Illuminati. Et Born, du coup, change un petit peu d'optique à ce moment-là, parce qu'en Bavière, c'est vraiment interdit. Mais l'impact est quelque part un petit peu présent. Alors, c'est vrai qu'il y a énormément de mouvance dans cette maçonnerie autrichienne. Pour aller au bout de cela, savoir que Joseph II meurt en 1790, lui succède Léopold II, qui va régner pendant 2 ans, et 1793 va lui succéder François II, qui est son fils aîné, et en 1793, toutes les loges, les 2 loges restantes, sont fermées en Autriche. Et elles ne réouvriront qu'en 1918. Donc, d'une certaine manière, les 7 années presque de la vie de Mozart en tant que franc-maçon, c'est presque les 7 dernières années de vie presque des loges autrichiennes qui ont une mouvance, qui cherchent un petit peu dans les rituels un petit peu partout, et puis qui va s'arrêter net en 1793. Voilà, Joseph II avait une tolérance. Mais que n'auront pas donc ses héritiers Léopold II puis surtout François II et voilà.
Mais est-ce que ça veut dire, Nicole, que l'imprégnation maçonnique dans l'œuvre de Mozart est due à Mozart lui-même ou aux librettistes ou à son environnement, à son entourage, à ceux qui participent à ses œuvres? Est-ce qu'on doit faire une distinction ou pas?
On doit. Si on regarde Quasi von Tout, au départ, c'est Joseph II qui indique « j'aimerais bien que ce soit ce livret ». D'ailleurs, il venait à toutes les répétitions, etc. Quand on crée la clémence de Titus, le texte lui est imposé, puisque c'est pour le couronnement de Léopold II à Prague, qui devient donc empereur, roi de Bohême. Quant à Don Giovanni, au tête des États, c'est la même chose, on lui impose. En revanche, ce qui est ajouté à l'intérieur, justement, ce que je viens d'indiquer, est-ce que c'est la pression de Da Ponte, qui était un frère, ou celle de Mozart? Là, nous sommes dans toute une ambiguïté, justement. Je pense que les deux étaient de toute façon très complices. Je pense que Mozart était quand même très, très conscient de ce qui se faisait.
Mais on peut difficilement donner une lecture maçonnique à la musique seule. C'est difficile de dire cette musique-là est d'essence maçonnique ou on peut pas. Est-ce qu'on peut décrire une œuvre uniquement sur l'aspect musical en disant qu'elle est maçonnique? C'est peut-être compliqué.
Non. Non, parce que sur un plan maçonnique, nous avons des manières de représenter cela. Par exemple, quelques temps plus tard, un compositeur qui s'appelle Piccinni va faire un opéra, et dans un de ses airs, par exemple, c'est par exemple dans l'opéra Roland, dans un de ses airs, on entend très distinctement la triple batterie. Voilà, sur un plan rythmique.
Bien sûr.
Voilà. Également, ce qui est assez intéressant, c'est une autre œuvre que je vais aborder un petit peu plus tard, qui est l'Obéron de Wranitzky, qui va être très importante. L'Obéron de Wranitzky, son ouverture, d'ailleurs je proposerai de l'écouter, elle démarre par 3 gammes ascendantes. Taem, taem, taem. Et ça, nous, en musique, on a ce qu'on appelle ces formules fusées, c'est les 3 marches qui montent à l'Orient.
D'accord, donc on peut lire.
Voilà.
On peut avoir une lecture.
Dès qu'on entend ça, on peut se dire, ou là, on a quelque chose qui peut attirer notre attention. Dès qu'on entend, qu'on va réentendre d'ailleurs dans la flûte enchantée, eh bien, on sait que ça va symboliser ça. Dès qu'on a, on sait très très, qu'on a dans la flûte enchantée, on sait que c'est la triple batterie. Mmh. Voilà. C'est-à-dire que, rythmiquement parlant, par l'utilisation des tonalités, par l'utilisation de certaines écritures artifices que je viens d'expliquer, on a tout de suite l'empreinte maçonnique qui est là et que les compositeurs vont utiliser.
Alors là, on a parlé du contexte, j'allais dire, de la franc-maçonnerie à cette fin du XVIIIe siècle, mais il y a également un contexte de nombreux mouvements philosophiques, ésotériques ont vu le jour à cette époque. Je pense notamment au contexte des Lumières, mais aussi au développement de l'égyptologie. On a parlé des Illuminati, sans parler de l'exotisme. Tout ça se développe à cette époque-là. Absolument. Il y a tout cet environnement-là qui est foisonnant dans ce siècle, et pas qu'en Autriche. C'est sûrement aussi un contexte qui a dû nourrir l'imaginaire de Mozart et de tous ceux qui ont participé de près ou de loin à ses œuvres.
Ah, mais ça, c'est fondamental. Enfin, c'est tout le problème, c'est arriver à comprendre cette œuvre dans ce contexte. Au XVIIIe siècle, n'oublions pas qu'on est déjà, et Marco Polo, c'était déjà il y a quelque temps. Mais au XVIIIe siècle, pas mal d'écrivains, je pense au Conte des Mille et Une Nuits, qui vont être édités à ce moment-là, un ouvrage ô combien important qui est le Cétos, roi d'Égypte, de l'abbé de Terrasson. Cet ouvrage, il est publié en 1731. L'abbé de Terrasson fait une sorte d'histoire, voilà. Et dans cette histoire, le roi de l'Égypte, Cétos, doit devenir pharaon, donc il va passer une initiation. Mais une initiation à l'intérieur de d'une pyramide, donc on explique qu'il descend dans les degrés de la pyramide, et il va passer l'épreuve du feu, de l'eau et de l'air. Et il va les réussir, et à la fin, il sera, après un enseignement qu'il va recevoir, il va être donc fait pharaon. Ce qui est tout à fait intéressant, c'est que cet ouvrage de 1731 va être très très rapidement traduit en allemand et en 1777, il est traduit par Matthias Claudius et c'est l'un des livres phares, on le sait, à Vienne, dans la loge. Il se trouve que Born, en 1784, donc l'un des vénérables, va faire le journal des francs-maçons. Et en particulier, un de ses premiers articles va être sur l'influence égyptienne. Et il cite l'abbé de Terrasson, et il cite tout ça. Donc on sait que cet ouvrage-là était fondamental pour les frères de Vienne. Et c'est intéressant parce que tu as deux extraits de la Flûte enchantée qui viennent de cet ouvrage.
Alors ça, c'est une découverte que tu as faite, ou c'était déjà connu ?
Pas vraiment, en tout cas ça n'a jamais été vraiment documenté. Oui. Donc moi ce que je te propose... Bah, mon frère, il se trouve que j'ai l'ouvrage, le Cétos, roi d'Égypte, justement, de l'abbé de Terrasson.
Nicole est en train de nous montrer l'ouvrage dans son édition originale.
Édition originale, voilà, 1731, tu vois.
Ah oui, je vois très bien.
Tu vois très bien.
Je regrette qu'on n'ait pas l'image.
Non, mais bon. Est-ce que tu peux lire mon frère, là, à partir de le mot Isis ?
Alors, j'ouvre l'ouvrage à la page 176. Isis, ô grande déesse des Égyptiens, donnez votre esprit au nouveau serviteur qui a surmonté tant de périls et de travaux pour se présenter à vous. Rendez-le victorieux de même dans les épreuves de son âme en le rendant docile à vos lois afin qu'il mérite d'être admis à vos mystères.
Alors ça, c'est exactement ce que va chanter Zarathustra au début du deuxième acte. Après le dernier passage, c'est-à-dire qu'il a demandé à tous les frères le dernier vote, hein, pour le début du deuxième acte, c'est l'initiation, et Zarathustra va chanter exactement la traduction de ce qui est là-dedans.
Oui, c'est extraordinaire.
Donc, on peut peut-être l'écouter.
On peut peut-être l'écouter avec plaisir, on l'écoute.
Il y a un deuxième extrait.
Quiconque fera cette route seul et sans regarder derrière lui sera purifié par le feu, par l'eau et par l'air. Et s'il peut vaincre la frayeur de la mort, il sortira du sein de la terre, il reverra la lumière et il aura droit de préparer son âme à la révélation des mystères de la grande déesse Isis.
Et là, c'est exactement la traduction en allemand de ce texte que chantent les deux hommes armés, juste avant que Tamino et Pamina ne passent l'épreuve du feu et de l'eau. Donc, ce texte-là de cet os, et ce qui est très très intéressant, c'est que là, en fait, on parle bien de, il va être purifié par le feu, d'une certaine manière de purification, d'épreuve. Or, ce qui est important de constater, c'est que dans tout, enfin, moi, de ce que j'ai lu dans les rituels du XVIIIe siècle, on ne parle toujours, au niveau de l'initiation, que de voyage. C'est-à-dire qu'on fait un voyage dans le temple, qui des fois peut s'associer à des éléments. Après le convent de Wilhelmsbad, là, ça commence à déjà prendre un petit peu plus de force, mais on n'est jamais dans des épreuves. Tandis que là, très très nettement, qui fera cette route seule, sans regarder derrière lui, sera purifié par le feu et par l'eau. Donc on est déjà dans quelque chose de tout à fait différent. Et on dit bien, à un moment donné, le prêtre lui dit « Maintenant, tu vas passer tes épreuves. » Et ça, c'est quelque chose qui, moi, me semble absolument fondamental pour nous, francs-maçons, parce que ne pas oublier qu'en 1804, on va avoir le RE2A, donc consécutif à la flûte. Et ça y est, maintenant, nous parlons d'épreuves. C'est quelque chose où cette œuvre, elle, je dirais presque que c'est en ça qu'elle nous dépasse, parce qu'elle aborde des points qui pourtant étaient connus, tu vois, tu as lu cet ouvrage de Cétos, qui était là, mais qu'au XVIIIe siècle, bon, la franc-maçonnerie se cherchait entre tous les différents rituels, tout ça se mettait en place et rien n'était encore vraiment codifié. Hein. Donc ce Cétos roi d'Égypte me semble fondamental. Enfin, il y a un dernier petit extrait qui me semble aussi intéressant, si tu peux lire à partir de...
On les faisait, s'ils le voulaient, officiers de second ordre dans ces temples souterrains, et ils pouvaient se marier aux filles de ces officiers. Mais on les obligeait, avant toute chose, de faire savoir leur état à leur famille par cette formule qu'ils écrivaient et signaient de leurs mains. Pour avoir tenté une entreprise téméraire, les dieux justes et miséricordieux me retiennent pour jamais dans une prison favorable. Craignez et aimez les dieux.
Alors ça, c'est une phrase absolument fondamentale parce que tout d'un coup, on parle d'officiers de second rang.
Et c'est sous-entend qu'il y avait des classes en fait différentes d'initiation. Chez les initiés, et différentes classes d'initiation.
Parce que là, on dit bien que le pharaon va être, à un autre moment donné, on le dit, il passe ses épreuves et il va être officier de premier rang parce qu'il les réussit. Mais après, il y a son personnel de service qui doit venir et donc voilà, les officiers de deuxième rang. Et c'est en cela où la maçonnerie du 18e est complètement différente de la nôtre. Parce que Tamino et Pamina vont passer des épreuves, que le feu et l'eau, j'y reviendrai, mais ils vont passer des
Tamino
épreuves.
Tamino et Pamina, qui sont des personnages de la flûte enchantée, je le dis pour ceux qui ne sauraient pas. Oui, bien sûr. Il peut en avoir quelques-uns.
Qui donc vont passer une initiation, mais simplement ces épreuves-là, et qui à la fin les réussissent et vont être initiés. Mais officiers de premier rang. Alors que Papageno, dans toute la littérature que l'on a jusqu'à maintenant, que j'ai pu lire, eh bien on dit qu'il les loupe lamentablement. C'est pas vrai. À un moment donné, il demande à manger, à boire. Il est en train de passer l'épreuve de la terre, celle qu'il faut pour être officier de deuxième rang, pour être au service, justement, des officiers de premier rang. Et tout à fait au début, quand le serpent a été tué par les trois dames, Papageno arrive et puis va mentir devant Tamino. Et il va dire « Oui, c'est moi qui ai tué ». À ce moment-là, les trois dames lui mettent un cadenas sur la bouche. En fait, on est en train de lui faire, d'une certaine manière, le sceau du secret. Voilà, t'as menti, faut aller vers la vérité. Et ensuite, ils disent « Non, non, il faut absolument aller vers la vérité, vers ce qui est notre quintessence ». Et à ce moment-là, après, Papageno va dire « Oui, bon, bah, d'accord, je ne vais plus mentir, d'accord, mais maintenant je m'en vais ». Et les trois dames lui disent « Pas du tout, tu vas suivre Tamino parce que tu vas être à son service ». Et là, nous savons déjà que Papageno va être initié officier de deuxième rang, pour être au service de Tamino et Pamina, qui vont être officiers de premier rang. C'est en ça où toute l'analyse de cet opéra ne peut se faire qu'à l'aune de la connaissance de ce qu'est les rituels de la maçonnerie au XVIIIe siècle.
Dans l'extrait précédent, qui était très éclairant d'ailleurs, hein, on parle de purification. Hein,
oui.
Tu as renchéri sur purification. Alors, il est peut-être possible qu'au XVIIIe siècle, le sens purification n'était peut-être pas tout à fait identique, puisqu'on voit bien aussi que dans le dernier extrait, en fait, on fait référence au dieu. Donc ça veut dire que il y a aussi une référence polythéiste qui s'est effacée avec le temps. Alors j'en profite aussi parce que je crois que Mozart avait une culture catholique assez ancrée.
Oui. Le problème, c'est qu'enquêtant le prince archevêque Colloredo en 1781, par la suite, il n'a plus écrit d'œuvres religieuses, justement. Alors, ensuite, il va commencer à écrire son Requiem en 1791. Mais oui, mais c'est une œuvre de commande. C'est un noble qui vient lui commander. Et puis, il a besoin d'argent. Et il accepte de faire ça parce que, en fait, l'œuvre, devait être, vous m'excuserez du terme, mais c'était comme si on allait mettre le nom d'un noble sur l'écriture de l'œuvre. C'est enfin d'utiliser Mozart, entre guillemets, comme un nègre. Voilà. Alors, il commence à Requiem, mais il dit, mais j'ai pas fait de musique religieuse. Alors, quel était vraiment son état? Moi, c'est une question qui me trouble toujours parce que quand il va apprendre que son père est très malade en 1786, il va dire, comme la mort a y regardé de près et le vrai but final de notre vie, je me suis depuis quelques années tellement familiarisé avec cette véritable et parfaite amie de l'homme que son image non seulement n'a plus rien d'effrayant pour moi, mais très apaisante, très consolante. Je pense qu'il ne peut écrire ça que parce qu'il a trouvé dans la maçonnerie. Parce qu'il est, quand il était enfant, par exemple, on sait que à l'âge de 6 ans, son père l'a amené en Angleterre pour qu'il travaille avec Jean Chrétien Barre. Et au retour, il a été gravement malade, il a failli mourir. Et toute sa vie, il a été souvent très malade, donc confronté à la mort. D'une certaine manière, à partir de 1784, je pense que c'est son adhésion à la franc-maçonnerie qui fait qu'enfin, sa vision de la mort pour lui, eh bien ça y est, comme il dit, elle est apaisante et consolante. Et je pense que c'est parce qu'il est franc-maçon que cette vision de la mort, et peut-être, en fait, il n'avait pas trouvé de réponse satisfaisante dans le catholicisme. Donc, tu vois, je nuance toujours un petit peu ce contexte-là par rapport à son... Je pense qu'il était bien sûr croyant, pratiquant, mais voilà, son contexte de catholique.
Pour en revenir à ce que tu m'as fait lire, ces extraits de Sétos, roi d'Égypte, on est bien dans un contexte qui a servi au livret de la flûte enchantée.
C'est ça.
Qui n'a donc bien évidemment pas été écrit par Mozart, on le sait, c'est évident. Est-ce que ça veut dire que les sources du livret sont multiples?
Absolument.
Ou est-ce que c'est une seule personne? Est-ce qu'il y a un débat là-dessus? Ou est-ce qu'on sait comment ce livret a été conçu et écrit?
Alors, il y a un gros débat dans le sens où, sur l'affiche du concert, bien sûr, ça a été créé au théâtre Hofdervieden, donc
le théâtre en bois.
Le fameux théâtre assez populaire qui était dirigé par Schikaneder. Ce qui me semble intéressant, c'est que Schikaneder a-t-il pu écrire le livret? C'est la question qu'on doit se poser. Schikaneder a été initié en 1788 à une loge à Ratisbonne. Il a été initié et il a été, je ne dis pas viré, mais dans les mois qui suivent, pour incompatibilité, un peu mauvaise mœurs.
Ah.
Donc, à mon avis, il ne s'est pas assez ancré dans le contexte de la franc-maçonnerie pour pouvoir être l'auteur du livret. Et c'est vrai que depuis quelques années, on se rend compte que, bien, c'est peut-être pas lui qui l'a écrit, et moi j'en suis absolument persuadée. Est-ce Mozart? Non plus. Mozart y a-t-il participé en tant que, je dirais, synopsis? Pourquoi pas? Je pense en fait que c'est un travail collectif. Et plusieurs choses m'invitent à penser ça. C'est déjà que au XVIIIe siècle, on voyageait beaucoup, puisque les nobles faisaient donc leur fameux grand tour. et qu'un personnage, donc, enfin, on a plusieurs écrits de voyage en Égypte. Les premiers étaient publiés par Norden en 1755. Puis ensuite, on a un autre ouvrage qui va apparaître, qui va être le Zoroastre, qui va être édité en 1751. Et l'histoire traduite du chaldéen, etc. De là, un compositeur français qui s'appelle Jean-Philippe Rameau va faire un opéra qui va s'appeler Zoroastre. Je pense qu'on peut comprendre que Zoroastre est à l'origine du mot Zarastro, qui est le grand prêtre de la flûte enchantée. Donc, on est toujours dans cette espèce d'exotisme qu'on a propre au XVIIIe siècle. Mais il n'y a pas que ça. Von Gebler, en 1773, va faire un ouvrage qui va s'appeler Tamos. Et c'est une pièce de théâtre. Et il va demander à Mozart d'en écrire la musique. On est en 1773. Donc, c'est 11 ans avant l'initiation. Or, cet ouvrage, eh bien, si on écoute l'ouverture qui dit la chose suivante, « Soleil, dans ta carrière, déjà ta brillante lumière a chassé l'ombre de la nuit, de l'Égypte déjà le commun sacrifice pour t'honorer se reproduit. Bon, » je vous propose de l'écouter. Quand on entend cette ouverture très brève, ben on comprend tout à fait ce qui va se passer dans la flûte enchantée, d'une certaine manière. On en a tous les prémices. Et Gebler va être vénérable de la loge, justement, quand Mozart va être initié. Il va le retrouver dans 14 ans après. Donc ça me semble tout à fait fondamental. Ce que l'on peut dire aussi, c'est que suite à tous ces voyages que l'on fait, ces découvertes, n'oublions pas non plus qu'on découvre Herculanum, qu'on découvre Pompéi, qu'on est dans ce voyage vers l'exotisme, hein, vers l'Égypte. Et il se trouve que Savary, en 1786, va faire ses lettres sur l'Égypte. Et va publier 3 ouvrages, et je t'en ai apporté d'ailleurs un exemplaire, où tu peux lire le titre de cet exemplaire.
De Ptah, Net et Knep, noms sous lesquels l'être suprême fut adoré en Égypte.
Voilà. Et là, ça, c'est tout à fait incroyable. 1786, l'ouvrage est immédiatement traduit en allemand. Et on le sait aussi, 1786, vous avez donc les fameuses publications de Born sur les journaux des francs-maçons. Il parle également de ses lettres en Égypte et il va citer Ptah. Et le Ptah est donc connu comme étant l'être suprême. D'ailleurs, ne pas oublier que Égyptae, les Égyptes, c'est le temple de Ptah. Que Ptah est vraiment le dieu suprême. Et ensuite, Savary explique que dans les nids qui va suivre, il y aura Isis, Osiris, et il décrit tous ces dieux qui gouvernent l'Égypte. Donc ça me semble capital, parce que Ptah, eh bien, on va le retrouver dans la flûte enchantée, puisque pour moi, c'est la conséquence. Tamino et Pamina vont représenter Ptah. C'est un opéra allégorique. Alors après, ce qui me semble très important, c'est de constater qu'un des frères de sa loge, qui va s'appeler donc Christian Martin Wieland, va écrire un certain nombre de pièces. Et par exemple, il va écrire en 1781 un Obéron. qui va être mis en musique donc par un compositeur qui s'appelle Paul Wranitzky et dont le livret est de Karl Gieseke, qui est un frère de la loge de Mozart.
Encore.
Ouais. Et quand on regarde l'histoire, eh bien, c'est la structure d'Oberon est quasiment la même que dans La Flûte enchantée. Puisque, d'une certaine manière, le roi des elfes, Oberon, est endormi, l'air triste, il se dispute sur l'inconstance humaine avec la reine Titania. Et lui, ils se sont jurés de ne plus s'aimer tant qu'ils n'auraient pas trouvé un couple d'amoureux constant jusqu'à la mort. Et ils vont trouver donc un jeune prince vertueux qui va être Huon, qui va ravir une jeune fille, Amande. Il va tomber amoureux, voilà, tout de suite. Ils vont affronter des dangers. Et ensuite, avec un joyeux compagnon qui s'appelle Chérasmine, et un instrument enchanté qui est
qui
est Papageno, voilà. Et un instrument enchanté, le cor. La première partie de l'opéra s'achève sur la rencontre des amants. Quant à la deuxième, eh bien, c'est les épreuves qu'ils doivent faire avant de s'unir.
Ouais, c'est incroyable.
Ouais, on est vraiment. Et alors, moi, je vous propose d'écouter un extrait de la reine Titania, justement. Et là, on se dit, l'air de la reine de la nuit, ensuite, dans La Flûte enchantée, je dirais pas que c'est du copier-coller, mais nous sommes exactement dans le même contexte, puisque c'est la même interprète qui va chanter. Parce que, en fait, cet Oberon de Wranitzky va être créé au Théâtre of der Wieden, et tous les interprètes sont les mêmes que l'on retrouve dans La Flûte enchantée.
On écoute l'extrait. Nicole, ce qui est incroyable en t'écoutant, c'est que je commence à comprendre maintenant pourquoi tu as passé 15 ans de ta vie sur cette œuvre, parce qu'en fait, c'est une véritable enquête.
Tout à fait.
Qui permet de relier à la fois le contexte, les écrits, les tendances d'une époque, la franc-maçonnerie qui se structure, tout ça et le creuset de cette œuvre d'après tes recherches.
Oui.
Et c'est sans doute l'originalité de cette œuvre qui est assez incroyable.
Et en fait, ce qui est important, c'est de se dire, Enfin, il me semble que pour les francs-maçons, on se dit, mais La Flûte enchantée, c'est un opéra à part dans l'œuvre de Mozart. Parce qu'on connaît ces opéras seria en italien, etc. Et on se dit, mais en fait, d'où ça vient? Ben oui, mais voilà les origines. Et c'est pas fini, parce qu'il y en a encore deux autres. C'est-à-dire que Wieland va composer après avoir écrit Oberon, le texte, eh bien, il va écrire des Tchinistans. Tu connais les contes de Grimm? Eh bien, c'est la même chose. C'est des contes de fées. L'un de ces contes va s'appeler Les trois enfants intelligents. Eh bien, il se trouve que dans La Flûte enchantée, on va avoir trois enfants qui vont venir et qui vont dire, eh bien, prince charmant, Tamino, suis-nous, on va te donner la bonne route. C'est la première fois dans l'histoire de l'opéra qu'on a des enfants qui chantent sur scène dans un opéra. Il se trouve que la voix d'enfant, jusqu'à maintenant, elle était toujours utilisée comme système voix d'ange, c'est-à-dire la voix dans les maîtrises des églises, la voix de l'ange. Et bien là, tout d'un coup, on a trois enfants qui chantent, et qui chantent un rôle très important, puisqu'ils indiquent toujours la bonne direction, alors que les trois dames ne vont pas donner la bonne direction. Donc ça découle, en fait, d'un des livrets. Et puis alors, dans ces publications des Tchinistans, mais là, c'est pas Wieland qui l'écrit, c'est Jacob Libeskind, un autre écrivain qui était également franc-maçon, eh bien, va écrire Lulu et la flûte enchantée.
Là, ça devient clair.
Ah ouais. Alors, Lulu est un prince, et puis son père, le roi, lui dit, il faut surtout pas que t'ailles dans une forêt, il y a là-bas une dame qui est une sorte de marat, tout ça. Bon, puis un jour, il chasse, il se perd, et il tombe dans la forêt. Et la dame rencontre le prince et lui dit « Ma fille a été enlevée par un horrible personnage qui la tient dans une tour. Il faut que tu ailles la libérer, etc. » Et ne tenant qu'à son courage, avec sa flûte enchantée, il va dans la tour, il tue le personnage, le geôlier. La jeune fille est sauvée, il va l'épouser. Puis quant à la maman de la jeune fille, étant donné qu'elle a retrouvé sa fille, eh bien elle redevient toute gentille au point que le père du prince va se marier avec la mère de cette future princesse. Voilà. Donc l'histoire n'est pas tout à fait la fin, n'est pas tout à fait celle que l'on peut connaître. En revanche, on a déjà presque toute la trame, en tout cas avec cette flûte enchantée et le texte rien. Donc si tu vois déjà que tous les prémices sont déjà présents dans le Oberon, au niveau de la trame générale, dans le Lulu, la flûte enchantée, dans cet autre conte sur les trois enfants donc intelligents, ce qui me semble aussi important, c'est il y avait aussi beaucoup de littérature à l'époque sur ce qu'on appelle les Hanswurst. C'est-à-dire, c'est une littérature populaire d'une espèce de personnage. Alors, traduction en français, ce serait littéralement la saucisse du Hans. C'est bref, un jeune homme que l'on voit dans plein de petites gravures du 18e à Vienne, qui est un jeune homme d'origine populaire et qui fait des frasques, etc. C'est-à-dire qu'on retrouve quelque part Papageno dans toute cette littérature-là, constante dans ce contexte populaire. Alors en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'en 1789, donc Schikaneder arrive à Vienne, et puis il prend la direction du Théâtre of der Wieden, qui est ce théâtre très très populaire. Et il commence avec le Oberon, et la troupe de chanteurs est réalisée. Puis ensuite, en 1790, en partant encore d'un autre conte de Wieland, qui s'appelle Der Stein der Weisen, ça veut dire la pierre philosophale, ou l'île enchantée, on va encore avoir quelque part, une adaptation d'un conte avec, encore une fois, les mêmes chanteurs. Mais là où ça devient très intéressant, c'est qu'on a les noms des quatre compositeurs qui ont fait à la va-vite ce petit opéra populaire. Il y a Enenberg, Schack, Gerl, et puis il va y avoir dedans, dans le deuxième acte, un certain Mozart. Et Mozart, on l'a la partition, il va écrire un final qui commence par miaou, miaou. Et en fait, c'est les deux personnages.
Tu fais très bien le chat.
Je fais très bien le chat. C'est Lubano et Lubanara, puisque c'est les deux valets, hein, voilà, qui sont là, et ils sont en train de se... Voilà, ils sont en train de se chercher comme ça. Ben, c'est écrit par Mozart, on est bien avant le duo des chats, qui arrivera bien plus tard. Et c'est de la composition de la main de Mozart, puisque dans le manuscrit, c'est mentionné.
D'accord.
Donc je propose de l'écouter.
Ah ben, on va écouter les petits chatons.
Ça, on peut pas s'en passer.
On est à la fois dans une œuvre qui apparaît comme une œuvre de synthèse, d'une part, et en même temps avec une originalité, une sorte d'œuvre charnière peut-être alors, parce que tu nous as expliqué qu'il y avait des chœurs d'enfants qui n'existaient pas auparavant dans ce type d'œuvre, donc on est à la fois dans une synthèse, peut-être, on peut le dire comme ça, d'un contexte intellectuel, culturel, exotique, et en même temps, on est en train d'ouvrir quelque chose de nouveau.
Absolument. C'est-à-dire que ce qui me semble important, c'est... Là, maintenant, je pense que vous comprenez que cette œuvre, elle n'est pas presque un satellite, quoi.
Elle
n'est pas sortie de nulle part.
C'est pas spontané.
Voilà. C'est-à-dire que c'est vraiment... Il y a les sources littéraires. On voit le Cétos, on voit tous les Tchinistans de Vilande, on voit tous ces textes-là qui sont à l'origine. Et puis, en concentrant tout ça... Plus, quelque part, effectivement, cette imprégnation maçonnique, qui va maintenant peut-être être la deuxième partie de notre entretien, qui va plutôt être sur ce contexte-là, c'est-à-dire démontrer que, à mon avis, nous sommes en fait dans un travail de loge où il y avait Giseke, je te rappelle, c'était le librettiste de Oberon. Il y avait aussi Alberti, qui était un dessinateur, qui était celui qui va faire le frontispice de la Flûte enchantée, qui était dans la loge. Et dans ce frontispice, malheureusement, vous ne pourrez pas le voir, mais les symboles maçonniques, alchimiques sont absolument évidents, parce qu'on voit une pyramide avec tous les symboles alchimiques, du feu, du sel, etc., qui sont représentés. Il y avait également dans la loge, par exemple, le prince Esterhazy, qui est celui qui va monter une loge à Eisenstadt, le prince Esterhazy. Dans cette loge qui s'appelle la Grotta à Eisenstadt, eh bien, vous allez avoir un musicien qui s'appelle Joseph Haydn, qui fait toute sa carrière pour le prince Esterhazy à Eisenstadt. Mais un jour, il est monté à Vienne, il a été initié dans la loge de Mozart, quelques temps après Mozart, mais il n'y est resté qu'une fois. Puis ensuite, il est reparti à Eisenstadt. Il a continué sa carrière maçonnique, en fin de compte, comme maçon, puisque Heine était aussi maçon, donc à Eisenstadt pour le prince Esterhazy. On le voit, on peut vraiment entendre ses répercussions quand vous écoutez la création de Heine, toute la première partie où on est dans la nuit tout à fait très très doucement, et tout d'un coup, le chœur va dire et arrive de Licht, la lumière. Et là, vous avez une explosion musicale. On est vraiment, on nous enlève le bandeau. Je veux dire que c'est tout à fait clair, point de vue expérience.
Il y a un lien fort entre Haydn et Mozart. Enfin, on a souvent dit que l'œuvre de Mozart était inspirée aussi, peut-être.
Non.
Non.
Non. Non. Non.
C'est une idée reçue.
Oui, c'est-à-dire que les deux vivent à la même époque. Bon, Heine est bien plus âgé que Heine.
Oui, c'est pour
ils
ça.
Sont dans ce qu'on appelle la musique galante. Enfin, on est dans toute cette musique là. Ils ont une grande différence compositionnelle. Mozart déteste travailler une œuvre. On pense maintenant qu'il était atteint du syndrome d'Asperger. D'une certaine manière, c'est comme si la musique défilait en lui. Il entendait la musique comme une sorte de film qui passait dans sa tête et il écrivait. Voilà. Toute sa musique était déjà construite d'un seul jet. Il déteste travailler quelque chose. Nous n'avons réellement que deux esquisses de sa part préalables. L'une pour l'Opéra Don Giovanni et l'autre pour le final de la symphonie, la 41e dite Jupiter. C'est tout ce qu'on a comme esquisse. Le reste, ça part d'un seul jet. On a très peu de ratures aussi dans ces manuscrits.
C'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'on voit
non. Très peu de ratures.
Des sources de travail? Non, en fait.
Voilà. Il entendait les choses. Hind est quelqu'un qui, au contraire, travaille énormément. Quand il prend un thème, il le triture, il essaye complètement. Et c'est une manière d'écrire complètement différente, bien qu'exactement à la même époque. Et au final, on est avec les symphonies, les quatuors, les opéras que compose Haydn aussi, comme de la musique religieuse. Mais on n'est pas dans la même approche compositionnelle.
Vous venez d'entendre notre premier épisode consacré à l'étude du contexte historico-maçonnique de cette œuvre, La Flûte Enchantée. Rendez-vous le mois prochain pour un deuxième épisode consacré à l'étude de l'œuvre elle-même.